Le journal des idées, Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Je parlais à l'instant des doutes de beaucoup d'électeurs américains à propos de leur choix entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et vous notez, Jacques, que la possibilité d'un Trump président prend de la consistance en ce moment.
Et oui, on le sait. Et pour Dominique Moisy, dans Les Échos, ce seul fait est en soi un événement. Le référendum sur le Brexit n'aura-t-il été qu'un premier avertissement, presque sans frais celui-là, comparé au tsunami que constituerait une victoire de Trump au scrutin du 8 novembre, se demande-t-il. Le professeur au King's College de Londres estime que si tel devait être le cas, ces deux votes successifs résulteraient d'un même mélange explosif de peur et de nostalgie. Ce n'est plus l'économie, mais l'identité qui domine les esprits. Le triptyque sécurité, souveraineté, identité l'emporte sur tout autre. Considérations, y compris la prospérité. Le quotidien économique a mené l'enquête dans la ville de l'Indiana qui, depuis 60 ans, vote constamment pour le vainqueur de la présidentielle, ce qui en fait l'un des meilleurs baromètres électoraux du pays. Lucie Robquin s'est rendue à Terre Haute, comme de nombreux journalistes du monde entier. Elle y a constaté le même cocktail de désindustrialisation, sentiment d'insécurité, de déclassement et de racisme qui favorise le vote populiste partout dans le monde occidental. Ici, comme ailleurs, les supporters de Donald Trump affichent nettement plus d'enthousiasme que ceux de Hillary Clinton, a-t-elle observé. La gêne a basculé dans le camp des seconds, lui explique un journaliste de New York. Ils ont davantage tendance à cacher leurs intentions de vote que les partisans de Donald Trump, qui se font entendre à tous les coins de rue et plantent des panneaux de soutien dans leur jardin. Le maire de cette petite ville de 60 000 habitants, partisan de Trump, pense qu'il va l'emporter ici, à une courte majorité. Je connais les démocrates pur et dur, qui s'apprête à voter Donald Trump. La contestation des accords de libre-échange, c'est une idée de gauche, mais c'est Donald Trump qui la défend, affirme-t-il avant d'ajouter. C'est un mec normal qui a les pieds sur terre, il va secouer les choses, il va produire du bon et du mauvais, mais le mauvais c'est toujours mieux que rien. Une affirmation qui frise l'irrationnel, souligne l'envoyé spécial des Échos, et montre à quel point les gens n'en peuvent plus de l'immobilisme à Washington. Le Congrès est au quasi-chômage depuis 6 ans, faute de vouloir examiner le moindre projet de loi. Ces élus ne se seront réunis que 124 jours cette année, du jamais vu depuis 60 ans. Pour Tom Steiger, professeur de sociologie à l'université de l'Indiana, le scrutin va être extrêmement serré au final, on verra.
Parmi les nombreux livres consacrés au phénomène Trump, Jacques, paru ces jours-ci, il y a notamment celui de Stéphane Brussard et de Philippe Mottaz.
Oui, alors ces deux journalistes spécialistes des États-Unis n'ont pas tenté le énième portrait du candidat, ou pire encore, de se glisser dans sa tête. Dans Hashtag Trump, ils ont adopté un angle révélateur, son usage des réseaux sociaux et en particulier de Twitter. Outre son faible coût, sa large portée, la versatilité du contenu et l'impunité de l'éphémère, le format de 140 signes lui va à merveille. Donald Trump aime les phrases courtes. Des analyses linguistiques de ses déclarations ont montré qu'il s'exprime à un niveau de langage qu'un gosse de 10 ans peut comprendre. Même ses discours sont faits de séquences brèves, sans fil conducteur fort. Par le recours systématique à la provocation, il parvient à noyer la campagne d'Hillary Clinton dans le bruit fait autour de lui, et il s'affranchit ainsi des règles du débat démocratique, comme de la contradiction qu'on pourrait lui apporter dans les médias traditionnels, notamment sur ses nombreux mensonges. L'universitaire Gilles Leport résume ainsi le tort que peut faire à la démocratie l'abus de ses moyens de communication. Il arrive un moment où la vitesse de communication politique dépasse le point où la délibération, c'est-à-dire l'expression d'un vrai consentement populaire, est possible.
Et on s'interroge également sur les capacités géopolitiques d'un tel candidat s'il venait à être président de la première puissance mondiale.
Oui, la dernière livraison de la revue Inflexion porte sur l'état contemporain des conflits dans le monde vu depuis l'Europe, et leur caractéristique globale est une complexité croissante. La guerre est un caméléon, disait Clausewitz. Pierre Manant rappelle que nous avons cru à l'irrésistible extension de la paix alors que s'éloignait la guerre froide. Mais d'autres formes de conflits sont apparues qui rendent caduque la distinction politique primordiale entre l'intérieur et l'extérieur, tout en brouillant celle entre la guerre et la paix. Deux exemples, la Crimée ou le Donbass d'abord. Des opérations russes militairement modestes ont des conséquences considérables sur la stabilité du vieux continent. Deuxième exemple, la guerre intérieure presque invisible que nous menons contre le terrorisme.
Merci beaucoup Jacques Munier. On suit donc ce feuilleton feuilleton américain de près. On rappelle aussi que le débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump est visible sur les télévisions françaises ce soir. Et
à demain. 3h du matin.
Exactement, cette nuit plus tôt. Nous, on sera réveillés. On le suivra pour vous.